Ve République, anatomie d'un régime en crise.
Absence de majorité, compromis difficile, coalition fragile, censure. Longtemps gage de stabilité, la Ve République est aujourd'hui fragilisée comme jamais depuis son origine en 1958. Saura-t-elle, comme par le passé, surmonter ses difficultés ?
Thomas Negaroff.
Six grandes dates, six épisodes, une conversation pour apprendre et comprendre avec la spécialiste de la Ve République, la juriste Anne-Charlène Bézina.
Épisode 2, 1962, le président monarque.
Je crois que quoi qu'il arrive, la nation doit avoir le moyen de choisir elle-même son président afin que cette investiture directe puisse lui donner la force et l'obligation d'être le guide de la France et le garant de l'État. Général de Gaulle, allocution radio-télévisée, le 18 octobre 1962. On poursuit la conversation avec Anne-Charlène Bézina, autrice de cette constitution qui nous protège chez IXO. Là, pour le coup, c'est un moment majeur et capital. Le passage de l'élection du président de la République au suffrage universel direct, je reprends les mots du général de Gaulle, lui donner la force et l'obligation d'être le guide de la France et le garant de l'État. Pourquoi c'est très, très, très important, cette date ?
Alors, en réalité, parmi les analystes, on dit parfois que cette Ve République, elle n'a duré que 4 ans, de 58 en 62, et qu'on est déjà dans la 6e République à ce moment-là, parce que on change tout. Un président de la République élu au suffrage universel, dans cette époque à laquelle on parle, le seul vrai parallèle que l'on a, c'est le président des États-Unis. Ouais. Donc on se dit, est-ce qu'on est dans un régime qui est devenu présidentiel ? Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire de notre Parlement qui communique avec un Premier ministre ? Quelle sera cette architecture des pouvoirs ?
Et je t'arrête. Un régime présidentiel, ça veut dire quoi ?
Un régime présidentiel, ça veut dire un régime où, normalement, les deux organes sont complètement avec des couloirs. Le Congrès discute seul des lois, le président discute seul de la question exécutive, et avec un président plutôt valorisé, puisque justement, il n'a pas de compte à rendre. Donc, c'est,
et le président ne peut pas renverser le Parlement.
Voilà, personne ne peut agir
l'un contre l'autre. Et le
Parlement
ne peut pas renverser l'exécutif.
Voilà, incapacité de...
Sauf impeachment à l'américaine.
Exactement, mais qui est plutôt pénal et pas politique.
Ouais.
Donc, c'est pour ça que, normalement, il y a vraiment couloir et impossibilité de renversement.
Mais ça, on n'a pas ça en France.
On n'a pas
ça en
France. Parce
qu'entre les deux, il y a un gouvernement.
Et c'est ce que nous dit le général de Gaulle. Au fond, pour lui, cette réforme, elle est complètement indolore. Elle ne change rien au régime. C'est juste un mode d'élection qui change. Sauf que je pense que pour l'année 62, il faut vraiment la comprendre dans ces deux semestres. Là, on parle du semestre de l'élection du président de la République. Mais le général de Gaulle sort d'un semestre difficile, janvier-juin, où précisément c'est la question algérienne qui s'est jouée. Et on le sait, justement, on a appelé de Gaulle en 58 pour l'Algérie française, en quelque sorte, et beaucoup de ses fidèles vont vivre comme une trahison l'idée qu'on en arrive à une Algérie indépendante. Et donc, il y a des tensions qui commencent à travailler au sein de la majorité. Michel Debré lui-même, en réalité, a du mal à le défendre, si bien qu'on en change. Debré devient Pompidou, c'est une espèce de démission-divorce. Hein.
Georges Pompidou devient Premier ministre.
Ouais, c'est
ça. Debré ne devient pas Pompidou.
Debré ne devient pas Pompidou, mais je paraphrase ici un article de Maurice Duverger qui disait « Michel Debré existe-t-il dans les débuts de la 5e ?» Parce que c'est vrai qu'en fait, c'est la fonction du général de Gaulle qui avale un peu celle de Premier ministre.
On connaîtra ça ensuite dans l'histoire.
Oh oui. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a déjà eu en 61 le putsch des généraux d'Alger, et donc le général de Gaulle qui prend les pleins pouvoirs. Article 16 de la Constitution, il a le pouvoir législatif, exécutif, judiciaire. Il l'utilise pendant presque un an. Donc on est vraiment dans un climax d'une période de tension en 62.
L'article 16, c'est l'article que peut utiliser le président de la République lorsque l'ordre public n'est plus garanti, que la sécurité nationale est en danger.
Alors vraiment, l'article 16, c'est le général de Gaulle qui y tient d'ailleurs au moment de la rédaction, parce qu'il dit « Au vu de notre histoire, on ne peut pas dire qu'il n'y aura pas de période de catastrophe. » Mais vraiment, pour lui, c'est la catastrophe guerrière. C'est-à-dire vraiment, les conditions, je les cite rapidement, c'est menace sur l'intégrité de la nation, du territoire, du respect des traités et impossibilité pour nos pouvoirs publics de fonctionner normalement. Donc on voit bien qu'on est vraiment dans une catégorie très très forte.
Donc il l'utilise.
Il l'utilise, donc c'est dire...
Longtemps.
Longtemps, c'est dire la période de, on va dire, de tension très forte qui existe dans les pouvoirs publics. Les accords d'Évian sont signés. La communauté française a été dissoute dans la fin de l'année 60, 61. Donc, on sent que la République change. C'est les indépendances. On sent que la République est en train de changer. Il y a les référendums. Déjà, on a sollicité le peuple pour lui demander son avis sur l'Algérie. On a sollicité l'Algérie pour lui demander les accords d'Évian. Donc, on est dans une période de sursollicitation du peuple pour la modification des institutions. Et là, qu'est-ce qui se passe ? L'attentat du petit Clamart.
Le président de la République, accompagné de Madame de Gaulle et de son gendre, le colonel de Boissieu, regagnait Colombey à l'issue du Conseil des ministres lorsque sa voiture a essuyé plusieurs rafales d'armes à feu qui ont brisé la vitre arrière et crevé deux pneus. Aucun des occupants de la voiture n'a été atteint. Un motocycliste de l'escorte a reçu deux balles dans son casque mais n'a pas été blessé.
On ne peut pas comprendre cette réforme de la Constitution sans comprendre que le général de Gaulle a craint pour sa vie. Et en bon général, d'ailleurs, il en veut beaucoup à ceux qui ont fomenté l'attentat contre lui. Il en veut par rapport au fait que, son épouse est en réalité dans la voiture. Et donc, il dit, un bon général ne vise que sa cible. Et elle, c'est une civile qui, en quelque sorte, aurait pu tout à fait jouer sa tête à ce moment-là. Et tu sais qu'on raconte que ce sont les poulets d'Yvonne qui nous ont sauvés, parce que c'est eux qui ont pris les balles à l'arrière, alors qu'elle les avait prévues pour le dîner. Donc, il y a toute cette théâtralisation qui est quand même une théâtralisation d'un moment physique pour le général de Gaulle. Et il raconte que c'est à ce moment-là qu'il bascule sur sa succession. Il dit, aucun des présidents de la République qui ne me succédera n'aura ma légitimité historique. Aucun d'entre eux ne sera le général de Gaulle. Et donc, comment est-ce qu'on va pouvoir arbitrer? Comment on va être cette figure? Et j'invite tous nos auditeurs à lire l'article 5. C'est surtout cette idée de se dire que l'article 5, il est fou, en fait. C'est un article vraiment hybride. Il dit « Le président de la République est arbitre de la nation. Il doit décider pour l'intégrité du territoire, il doit décider pour l'avenir de la nation, pour l'unité du peuple, pour la garantie de la Constitution. » Et le général de Gaulle se dit, comment est-ce que ce président de la République va pouvoir avoir cet apanage s'il n'a pas une légitimité de l'histoire? Donc, en quelque sorte...
Donc, lui donner une autre légitimité, le suffrage
universel. L'autre légitimité,
hein.
C'est le suffrage universel. C'est exactement ce qui est contenu dans la déclaration que tu lisais. Le général de Gaulle ne comprend pas pourquoi on lui donne des oppositions à ce moment-là, parce que pour lui, c'est quelque chose de naturel. Mais les oppositions, elles sont là.
Oui, elles sont là et elles résonnent encore avec les temps présents. Quand il y a eu la censure du gouvernement Barnier, tout le monde a dit c'est la première fois depuis 1962. Et 62, c'est exactement ce qu'on est en train de se raconter ensemble maintenant, parce que c'est à l'occasion du débat à l'Assemblée sur le suffrage universel direct pour élire le président qu'il y a une censure du gouvernement.
Alors en réalité, les choses vont très vite. Le général de Gaulle se décide à peu près vers le 20 août sur le fait de réviser la Constitution pour permettre l'élection au suffrage universel direct du président. Je rappelle qu'avant, il était élu par l'Assemblée nationale et le Sénat et aussi le Collège des élus locaux, de manière à lui donner une certaine assise. Mais donc c'était une élection indirecte de ce chef de l'État. Et donc on passerait au suffrage universel direct. Sauf que il se voit très vite qu'il n'aura pas l'assentiment du Sénat. Gaston Monnerville est vent debout, il dit, c'est changer l'esprit des institutions. J'ajoute que, à part le président de l'Assemblée nationale, personne ne le soutient là-dedans. Ni le Conseil constitutionnel qu'il a sollicité pour avis, ni le Conseil d'État qu'il a sollicité pour avis.
Personne ne soutient De Gaulle, tu veux dire ?
Personne ne soutient De Gaulle, même pas Georges Pompidou. Tout le monde est contre cette modification de la Constitution. Il est le seul à se soutenir lui-même. Et il dit, au fond, peuple...
C'est important que les gens le réentendent. Se soutenir lui-même, mais pas pour lui-même, à t'écouter.
C'est
pour
ça,
les successeurs.
Il est persuadé de la portée.
Ouais.
Universel de ce qu'il va proposer. Il est persuadé de sauver la République. Il le dit, finalement, si vous ne me suivez pas lors de ce référendum, vous allez retomber dans les affres d'hier. Vous allez retomber dans tous ceux qui ont fait l'instabilité. Donc il veut de cette réforme pour le bien de la France.
Le général de Gaulle a expliqué aux Français sa proposition tendant à faire élire le président de la République au suffrage universel.
Français. Le projet que je vous soumets propose que le président de la République, votre président, soit élu dorénavant par vous-même. Rien n'est plus républicain, rien n'est plus démocratique, j'ajoute que rien n'est plus français, tant cela est clair, simple et droit.
Mais il viole la Constitution, il faut être honnête. Pourquoi ?
Parce
que comme il sait qu'il n'aura pas le soutien du Sénat, eh bien il ne va pas réviser la Constitution suivant le mode de révision de la Constitution. Ça devient quand même un peu une habitude chez lui.
Qui est sa propre Constitution, quand même.
Qui est sa propre Constitution, mais si on lit l'article 89, eh bien ce qu'on voit avec l'article 89, c'est qu'il faut que l'Assemblée nationale et le Sénat soient d'accord à la virgule près. Et comme il n'aura pas le Sénat, il sait très bien qu'il n'aura pas cette révision. Donc, il passe directement par le référendum. Et là, c'est très simple. Il lui suffit de préparer un projet et de le soumettre au peuple le jour et à l'heure où il le décide seul. C'est un pouvoir propre. Personne ne peut le contredire.
Attends, t'es en train de me dire que le président qu'on a élu, qu'on va élire, c'est anticonstitutionnel?
Complètement. Il faut être honnête, la lecture qui est faite par les gaullistes à cette époque, c'est de se dire « Utiliser le référendum, c'est une bonne chose, il faut donner appel au peuple ». Et je dis d'ailleurs ici un élément qui pourrait tout à fait avoir un écho dans l'actualité. On entend dans beaucoup de programmes de partis politiques l'idée de recourir à l'article 11, c'est-à-dire au référendum, pour modifier la Constitution. Or ça, ça n'est pas la Constitution, c'est inconstitutionnel. Parce que le référendum n'est pas censé réviser la Constitution. Pourquoi ? D'abord parce que dans le titre sur la révision de la Constitution, titre spécial de la Constitution, il n'y a qu'un seul article. L'article 89. Et parce que le référendum, il est déjà dans l'article 89.
Le 89, mais c'est les deux chambres.
C'est les deux chambres. Mmh. Une fois qu'on a eu l'accord des deux chambres, il faut soumettre le projet au référendum. Mais on ne peut pas passer par le court-circuit de notre Parlement.
J'ai dit un peu trop vite qu'il y avait déjà eu une censure. En 62, qu'est-ce qui se passe alors?
Alors, ce qui se passe, c'est que justement, Monnerville est complètement, le président du Sénat parle de forfaiture sur l'utilisation du référendum. Et l'Assemblée nationale, même si le président de l'Assemblée soutient plus ou moins le général de Gaulle, l'Assemblée nationale est en ordre dispersé là-dessus. Elle estime que recourir au référendum en violation de la procédure de la Constitution, c'est une forme de coup d'État, en fait, du général de Gaulle. Et donc, l'Assemblée nationale, qui ne peut pas s'en prendre au général de Gaulle, puisqu'on l'a dit, on est dans un régime parlementaire. Donc, le président n'est pas responsable devant l'Assemblée. Et ça, c'est pareil en Italie, en Espagne ou en Allemagne.
Oui.
Et de ce fait-là, eh bien, comme l'Assemblée ne peut pas s'en prendre au général de Gaulle, qui c'est qui va payer ? Le fusible des régimes parlementaires, c'est le Premier ministre. Et c'est donc Georges Pompidou qui, ce jour-là, est renversé sans vraiment avoir présagé cette motion de censure. Elle arrive dans un temps record, même certains membres de la majorité la votent. Donc c'est dire à quel point, à ce moment-là, le désordre est à nouveau à la clé. Conférence de presse de Georges Pompidou le soir qui dit justement « J'ai vu les partis d'hier se réunir à nouveau pour le chaos ». Donc vous voyez à quel point on théâtralise l'idée qu'on est dans une période d'instabilité. Mais le général de Gaulle n'est absolument pas perturbé. Il dit « Si l'Assemblée nationale veut renverser mon gouvernement, ça veut dire qu'on est dans une crise institutionnelle. On va redonner la parole aux Français. Je dissous dans l'instant l'Assemblée nationale ». Donc pour lui, c'est un moment clé de la survie de la Ve République. Et donc, c'est important que le peuple se prononce. Et là, on a franchement un gros automne pour le peuple, puisqu'il doit se prononcer sur le référendum. Est-ce que vous voulez que le président de la République soit élu au suffrage universel direct ? C'est un raz-de-marée pour De Gaulle, 62% des suffrages. Et est-ce que vous voulez, finalement, que cette nouvelle Assemblée nationale donne à nouveau confiance à un gouvernement gaulliste et soutienne ce nouveau président ? Et là encore, c'est un raz-de-marée gaulliste. Donc, au fond, cet appel à la cristallisation d'un moment clé, il y a quand même trois allocutions pendant cette période de deux campagnes. Hein. Donc, le général de Gaulle veut vraiment que ce moment soit un moment de bascule. Et il le dit d'ailleurs, hein. Nos institutions doivent fonctionner, l'économie est repartie, le travail est reparti, les institutions sont stables. Faites pas n'importe quoi, là, il faut que ça survive. Et précisément, le peuple est au rendez-vous.
Il le sera moins, trois ans plus tard, lors de la première élection au suffrage universel direct du président de la République, on est en 1965, le général de Gaulle ne fait quasiment pas campagne, et mal lui en a pris.
Mal lui en a pris parce que c'est une vraie blessure pour le général de Gaulle. Il est en ballotage. Il a à vivre un deuxième tour.
Alors qu'il pense être vainqueur du premier tour.
Il est à peu près certain d'être élu directement. Il a l'habitude des victoires particulièrement imposantes. C'est lui d'ailleurs qui a créé le concept de majorité suffisante. C'est-à-dire que, en gros, si...
On ne l'utilise pas beaucoup aujourd'hui.
On l'utilise de moins en moins, c'est vrai. Mais si ce score ne lui plaît pas, il met sa tête dans la balance. Hein. C'est vraiment un général. Donc, il a besoin de sentir la connexion. Il le dit déjà pour la présidentielle, ça ? Il le dit pour la présidentielle. Et il est justement choqué d'avoir à vivre ce deuxième tour. Mais il peut se trouver des responsabilités. En tout cas, dans son coup, on lui dit « C'est vous qui n'avez pas vraiment joué le jeu. » Notamment parce qu'il faut le dire, on ne le sait pas assez. Le général de Gaulle, en réalité, détestait les caméras. On raconte même qu'au moment du maquillage, c'était une vraie foire d'empoigne. Il fallait un peu le forcer à rester sur son siège. Tellement, en fait, c'est un moment qu'il avait du mal à vivre. Donc, cette campagne, il ne l'a sans pas, en quelque sorte, et le deuxième tour va lui permettre de retrouver un peu sa posture d'attaque. En gros, il va jouer la posture du parti de l'ordre face au désordre de ce que propose la gauche. Ça fonctionne. En 65, il est réélu, mais en réalité, 65-69, c'est quand même une forme de perte de vitesse du gaullisme, parce qu'on a plein d'événements qui vont commencer à l'affaiblir.
Et j'aimerais qu'on termine tout de même cet épisode sur une grave crise, celle de mai 68. Est-ce que c'est, selon toi, une crise des institutions aussi ?
C'est une crise très profonde. C'est une crise sociale, c'est une crise de la jeunesse, c'est une crise de l'autorité.
Mais est-ce que cette autorité, elle va toucher aussi la fonction présidentielle et donc le mécano institutionnel qui a été pensé par le général de Gaulle ?
Je crois qu'elle touche plus la personne du général de Gaulle. C'est-à-dire que sur les pancartes, on a souvent, on en a marre du général, il est temps qu'il laisse la place, parce qu'il y a cette idée que c'est un petit peu trop long. En quelque sorte, le renouvellement des têtes va vraiment être demandé. Alors, le général de Gaulle réussit quand même encore une fois à sauver sa place sur quelque chose d'absolument historique, il faut le dire. Il disparaît de la circulation. Ni son cabinet, ni personne ne sait où il est. Il est à Baden-Baden pour se rassurer auprès de ses soutiens.
Et du général Massu ?
Le général Massu. Il revient plus sûr de lui encore avec une allocution qui est historique où il dit « Je ne démissionnerai pas, je ne vais pas non plus me démettre de mon Premier ministre ». Il fait un espèce de mémento de toutes les solutions constitutionnelles qui s'offrent à lui pour les faire tomber en quiesse, hein, une par une. Il en garde une seule. La dissolution. Il dit, si le peuple a vraiment besoin de revenir aux urnes, on va le faire maintenant. Et là encore,
Paris
il
gagnant.
Double la mise. Finalement, en se jouant partie de l'ordre, en disparaissant au bon moment, le lendemain, il y a des manifestations au même endroit où il y avait sa tête qui était réclamée en son soutien.
On voit les cortèges sur les Champs-Élysées.
On voit les cortèges.
En effet, cette république indissociable du général de Gaulle pourra-t-elle lui survivre et survivre à l'arrivée de la gauche au pouvoir en 1981, ça sera l'objet du prochain épisode.
Cinquième République, anatomie d'un régime en crise, un podcast original de France Inter.